Dans Luc chapitre 4, versets 21 à 30, on va dresser le thème ici, les mains vides. Avoir les mains vides. Oh, que la parole de Dieu est riche. Elle ne nous cessera jamais de nous surprendre et surtout de nous émerveiller. Et en préparant cette méditation, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'image des enfants qui réclament certaines choses à leurs parents. Ils sont si fâchés, parfois même ils y boudent, lorsque leurs parents tardent à faire ce qu'ils attendent. Pareillement avec les ados et leurs caprices, quels parents n'ont pas été mis à mal quand les ados commencent à dire « c'est mon droit ». J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, parce que j'ai tel âge. Pire que les syndicats. Jésus lui aussi était victime de ce genre de choses, de ce genre d'attitude face à ses congénères de Nazareth. On dit toujours Jésus de Nazareth. C'est parce qu'il est originaire de cette ville. Et alors, la population de cette ville a en quelque sorte exigé à Jésus de faire la même chose qu'ils avaient entendu parler de lui. À vrai dire, ils n'ont pas osé le dire à haute voix, mais ils le pensaient. Et c'est Jésus qui avait traduit cette pensée en langage. Certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi dans ton pays. » On a le droit d'avoir la même chose puisque tu es de Nazareth. En d'autres mots, pourquoi nous prives-tu de toutes ces choses et pourtant tu le fais ailleurs? Je ne sais pas pour vous, mais à première vue, cette parole semble être une parole juste, correcte. Et nous aussi, je crois, si nous étions à leur place, nous aurions sûrement dit la même chose. Mais avant de s'aventurer à dire quoi que ce soit, il est sage de regarder de plus près les deux exemples cités par Jésus dans ce texte. Le général Naaman, syrien, et la veuve de Sarepta. Tout d'abord, Luc met en relief l'origine de ces individus. La veuve de Sarepta, qui c'est pas juste pour remplir des pages, et je viens juste de sortir d'une formation sur l'évangile de Luc et l'acte des apôtres hier, tout frais de Bruxelles. Luc, c'est un théologien qui aime les détails. Et tout se construit dans ces détails. La veuve de Sarepta dans la ville de Sidon. La ville de Sidon, c'est-à-dire la terre d'origine de Jézabel, l'épouse du roi Akab, qui avait introduit l'idolâtrie en Israël, rappelons-le. Donc vous pouvez imaginer le dilemme qui était en lui, parce qu'il a été envoyé vers cette dame, cette femme, cette veuve, aller vers elle pour demander à manger. C'est dur pour Élie de le faire. Mais il devrait le faire. Mais cette femme, elle était en position de faiblesse. Elle subissait la famine en plein fouet. Et d'ailleurs, beaucoup d'exégètes penseraient que son fils en est victime. C'est pour cela que le fils est décédé. Malnutrition. Et dans la logique des Israélites, ils font partie des ennemis. Parce que ce sont des Sidoniens. Des oppresseurs. Elle ne devrait même pas bénéficier d'aucune grâce de la part de Dieu. Ce sont des ennemis. Même chose pour Naaman syrien. Un général haut gradé de l'armée syrienne qui vient aussi demander secours à cause de sa lèpre auprès d'Élisée. On aurait pu dire, ah là c'est une occasion en or, il fallait l'achever ce général. Au mieux le laisser souffrir de sa maladie. Ça, c'est Dieu qui punit les païens. Ce serait notre discours à nous, hein. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dieu a sauvé cet homme. C'est un choc pour Élisée. Ces deux exemples cités par Jésus n'ont pas du tout plu aux Juifs. Regardez la réaction des gens, les Juifs de Nazareth, car le signal donné par Jésus à travers ces deux réponses est vraiment déstabilisante. Oui, Dieu est libre à qui il veut porter secours. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de condition, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. C'est nous, êtres humains, qui aimons théoriser sur Dieu. Dieu a fait cela parce que. Il n'y a pas de parce que en Dieu. Il n'y a que de l'amour. Et cela me fait penser à cette phrase de l'Éternel qui peut nous encore heurter, Exode chapitre 33, verset 19. Et il faut vraiment bien respirer pour l'entendre. Je vais le lire lentement. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Voilà la souveraineté de Dieu. Je ferai grâce à qui je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne dois pas m'expliquer pourquoi j'ai fait cela. Je suis Dieu. Il est bon. Il agit avec qui il veut. Cela est dur à avaler. C'est presque une dictature, on va dire. Et en un seul mot, on pourrait dire, c'est injuste. Pourquoi Dieu fait cela? Et oui, c'est vraiment injuste. Et je rajoute une couche, c'est injuste. En Dieu, nous ne trouverons pas la justice comme nous le concevons. En Dieu, il n'y a pas de justice comme nous le croyons. Il n'y a que grâce. Et dans ce genre de texte, nous touchons vraiment le point de la souveraineté de Dieu. Mais une souveraineté qui n'écrase ni détruit, mais une souveraineté qui sauve le plus ignoble. Donc il n'y a pas de justice. Celui qui ne mérite pas de vivre est sauvé. Alors que dirions-nous aussi face à un autre verset encore plus choquant que je viens de lire? Romains chapitre 9, verset 13. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Vous savez qui, de qui on parle? Jacob, le petit filou, celui qui n'est pas du tout le meilleur par rapport à Ésaü, l'enfant obéissant, l'enfant qui était, on va dire, en considéré comme le plus obéissant, mais c'est Dieu qui a choisi. Et dans le langage des amoureux, on dit souvent que le cœur a ses raisons et que la raison ne connaît point. Mais en langage biblique, la grâce surabonde sur nos fautes. Elle dépasse largement nos fautes et fort heureusement, car si Dieu appliquait la notion de justice telle que nous la concevons, qui parmi nous, même moi y compris, qui parmi nous pourrait se tenir debout face à Dieu? Personne. Qui pourrait réclamer quelque chose parce qu'il est ceci, il est cela? Personne. Tout est par grâce et non par justice. Et par la suite, en continuant la lecture de notre péricope, cette idée du non-droit de ses congénères sur Jésus, vous n'avez aucun droit sur moi, même si je viens de Nazareth, se confirme encore un peu plus. Jésus montre clairement qu'ils n'ont aucun droit sur eux. Et c'est cette notion d'appropriation que Jésus refuse catégoriquement. À travers les évangiles, il a montré au moment où on voulait le capturer. Mais il est écrit, que Mai lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Il était à leur merci. Et regardez bien le verset 30, l'autorité que Jésus avait, personne ne peut le saisir. Et là, souvent, on interprète ce verset, oui, mais il est Dieu, il veut montrer de quoi il est capable. Non, ce n'est pas du tout une démonstration de force comme les magiciens font devant leurs spectateurs. C'est une façon de dire que personne ne peut lui ôter sa vie. C'est lui qui la donne lorsque le moment viendra. Jésus n'est pas la propriété de personne. Jésus n'est pas ma propriété. Jésus n'est pas ta propriété. Et même sa famille, sa mère, qui sont venues vers lui, qui le cherchaient. Ah, ta famille est là. Ta mère est là. Ils l'ont repoussé. Ces gens de Nazareth espéraient qu'ils auraient pu avoir un traitement de faveur parce que Jésus fait partie des leurs. Or, quand il a commencé son ministère, il a fait cela en Galilée. Et dans un autre texte, les Juifs, qui voyaient tous les miracles de Jésus, parfois ils voulaient le prendre de force pour l'instaurer comme roi. Mais Jésus ne veut pas. Jésus s'est éclipsé à chaque fois. Cette image de Jésus qui traverse la foule nous démontre que nous n'avons aucune autorité sur lui. Il n'y a ni menu standard à suivre, ni formule théologique, ni formule biblique, comme chez les magiciens, comme dans les films que nous voyons, qu'on doit réciter pour que Dieu nous écoute dans nos prières. À chaque fois, ça me fait quelque chose de voir certains enseignements. Quels sont les secrets pour que Dieu puisse répondre à vos prières? Comme si Dieu, on peut le téléguider d'ici-bas. Allez, bouge-toi. On n'a aucune autorité sur Dieu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui sur Internet des soi-disant prophètes de Dieu, général de Dieu, évangélistes de Dieu? Tous ces titres folkloriques donnés à des humains qui prétendent avoir les secrets pour faire bouger Dieu de son trône. Dieu n'est pas notre possession. Dieu n'est pas notre chose. Il agit librement, souverainement dans ce qu'il entreprend. Alors le fait de vouloir théoriser et dire que si Dieu avait fait ceci, si Dieu a fait cela, c'est parce que moi j'ai fait ceci. Et j'ai fait cela. À ce moment-là, nous réduirons Dieu en objet, parce que c'est comme s'il était là pour exécuter ce que nous lui avons commandé. C'est nous qui sommes à sa disposition et non l'inverse. Alors quand nous venons à Dieu, nous venons à lui avec les mains vides. Dans un esprit de dépouillement. Regardez bien avec Naaman et la veuve de Sarepta. Le premier, le général, lorsqu'il venait à Élysée, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire, il venait avec beaucoup de cadeaux, en espérant qu'en donnant ses présents à l'homme de Dieu, il pourrait avoir sa clémence. Il voulait être sauvé de sa maladie. Mais encore tout fier à cause de son titre, un général. Lorsqu'Élisée lui a ordonné d'aller dans le Jourdain, d'aller 7 fois dans le Jourdain, il se mit en colère. Car déjà, Élisée ne s'est même pas présenté à lui. Il était choqué. Il a convoqué le prophète. Élisée n'est pas venu. Il a envoyé un émissaire. Mais qui est-il? Je suis le général Naaman. Il était choqué de voir qu'un simple. Un simple prophète qui venait et qui ne venait pas se présenter devant lui. Et il l'a même insulté, ce général. Il a dit, mais c'est quoi ce. ce qu'il vient de me demander. Est-ce que les eaux de Damas, est-ce que les eaux de Labana, est-ce que les eaux de Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Le Jourdain. Alors il est reparti chez lui sans être guéri. Mais après avoir entendu ses serviteurs qui lui conseillèrent, Maître, mais si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais? Dites la petite servante. 2 Rois chapitre 5 verset 13. Alors il dit, bon, pourquoi pas? Sans conviction, mais il est quand même parti. Et il est rentré 7 fois dans l'eau de Jourdain, selon les consignes d'Élisée, et à la 7e fois, il fut guéri. Vous voyez, tant qu'on croit qu'on a encore des choses, on ne peut pas recevoir quelque chose. Parce qu'on est fier de nous-mêmes et on veut montrer à Dieu qu'on a notre raisonnement, notre logique. Pareillement aussi avec la veuve de Sarepta, le peu qui lui restait, on lui a tout retiré. La dernière ration de nourriture, une toute petite poignée, son fils unique, le seul qu'elle avait. Elle n'avait plus rien que sa pauvreté. Et c'est cette main vide-là qui peut recevoir les bienfaits de Dieu. Tout lâcher, tout donner, accepter votre faiblesse, ce sera votre force. Amen.